en compagnie de Jacques Manini pour Nécromancie, qui est sorti aux éditions d'Argo.
Oui, Jacques Manini, je suis le dessinateur et le coloriste de la série Nécromancie, qui est une série qui est en fait un diptyque.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour nous présenter cette histoire entre thriller et fantastique au moment de la prohibition aux États-Unis ?
Nécromancie, c'est l'histoire d'un gangster traditionnel. Il est confronté au fantastique. Un gangster, c'est quelqu'un de pragmatique par définition, c'est-à-dire que s'il est face à un problème, il le résout à coup de flingue. L'ennui, c'est que Gordon, notre chef de la mafia en question, va se retrouver face à des morts qui reviennent à la vie. C'est-à-dire que lors de son transit de bière, de whisky dans les camions de contrebande, à la place de transporter justement de l'alcool, il va découvrir que l'on transporte des momies, et des momies qui reviennent à la vie. Ce qui va légèrement heurter sa sensibilité de gangster.
Comment s'est fait votre travail avec Fabien Nury ? Est-ce que c'est lui qui est venu vous voir ou est-ce que c'est vous qui êtes allé le voir ?
Alors au départ, c'était prévu comme un diptyque depuis le début. Le diptyque qui était entièrement écrit a été écrit par Fabien Nury. Donc c'était assez jouissif pour un dessinateur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise surprise, il y a que de bonnes. Par contre, toute la mise en scène, c'est vraiment un travail commun. C'est-à-dire que pour arriver à une même scène, on peut un petit peu détourner les choses et essayer de trouver la manière la plus efficace pour aboutir à une action.
Est-ce que vous savez comment il a eu cette idée de mélanger un peu de magie vaudou avec les gangsters ?
Un gangster, c'est un méchant par définition. Si on le fait morfler, il risque de devenir sympathique à force d'en prendre plein la gueule. Et là, on le fait vraiment morfler dans ce diptyque puisqu'il est confronté justement à quelque chose qu'il ne pourra pas solutionner à coup de flingue.
Est-ce que vous savez pourquoi la période de la prohibition a été choisie ? Est-ce que c'était une volonté de développer justement une thématique sur la période ? Ou est-ce que c'était pour pouvoir présenter l'histoire vaudou dans une période moins classique que ce qu'on retrouve habituellement ?
C'est un petit peu les deux, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on est dans la tradition, et puis surtout le lieu, il me servait entre guillemets la soupe, puisque moi je travaille en couleur directe, les ambiances, et justement ça me permettait d'aller jusqu'au bout des mises en couleur, de ces mises en ambiance.
Justement, vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre technique de dessin ? Vous faites tout traditionnellement, j'allais dire, sur la planche ?
Oui, c'est-à-dire que je travaille en couleur directe, je commence traditionnellement par un crayonné, sur un beau papier aquarelle. J'encre en prenant bien soin de me laisser des blancs, entre guillemets, non ancrés, qui me permettront de faire des effets ou de mettre en avant ma mise en couleur.
Ça vous prend du coup combien de temps de travailler comme ça de façon traditionnelle ? Parce qu'avec l'ordinateur, on peut toujours revenir en arrière, mais là, si vous vous loupez, c'est terrible.
La mise en couleur, c'est ma force, entre guillemets, donc je ne doute pas, heureusement. Mais c'est vraiment intéressant d'être dans une démarche où on sait que ça passe ou ça casse. En règle générale, ça passe, heureusement, parce que sinon, si on doute, on peut plus avancer. Ceci dit, il y a aussi une manière de fonctionner, c'est-à-dire que je travaille d'abord sur les crayonnés, j'encre, et pour la mise en couleur, je monte mes tons petit à petit. C'est-à-dire que si j'ai une série de pages qui sont dans la même ambiance, pour pas être illustratif, je vais pas travailler à la case. Je vais travailler sur la série de 3-4 planches qui traduisent le même univers et la même ambiance colorée. Ça me permet d'avoir du recul, monter mes valeurs et mes couleurs au fur et à mesure jusqu'à verrouiller la planche en fait. À partir d'un certain moment, il faut que je m'arrête. Parce que la technique de l'aquarelle, c'est une superposition de couleurs et la couleur commence à chanter à partir du moment où elle a 3-4 couches. C'est pas vraiment, ça sort pas directement du tube ou du petit carré de l'aquarelle que l'on étale directement sur la page. C'est une technique à part.
Travailler comme ça sur des cases dans le désordre par rapport à l'histoire, ça vous donne envie des fois de retoucher celles qui sont entre, pour justement, quand vous voyez vos couleurs qui apparaissent, vous dire « Ah bah là, ça va donner ça, donc après, il faudra que je fasse attention sur mon prochain dessin. »
Non, c'est pas que je travaille dans le désordre, c'est que d'abord le scénario a été écrit, donc j'ai pu le travailler dans l'ordre. Mais par exemple, je fais une série sur une dizaine de crayonnés, après j'encre, et après je passe à la mise en couleur. Mais cette mise en couleur, je la traduis vraiment sur une série de même ambiance colorée. Et ce qui fait que je vais pas terminer une planche à la fois, mais je vais terminer peut-être 5-6 planches en même temps.
Vous savez pourquoi ça a été décidé uniquement en 2 volumes ? Et du coup, est-ce qu'il y aura une suite
Non, il y aura pas de suite. D'abord, c'était vraiment prévu en un diptyque. Alors après, c'est vrai que on peut faire ressusciter les morts à l'infini, mais là, le jeu n'en veut plus la chandelle.
Il y aurait pu y avoir un spin-off ou des choses comme ça.
Éventuellement, on peut reprendre l'univers, c'est vrai, mais je vois pas trop l'intérêt. L'intérêt est justement dans le cheminement de ce gangster qui va aller jusqu'au bout de sa déchéance. Donc après, on peut le sauver de sa déchéance, mais ça sera beaucoup moins drôle pour le lecteur.
Est-ce que vous avez fait des recherches sur le vaudou pour voir justement comment ça fonctionnait et puis savoir comment peut-être mettre des couleurs spéciales ou...
Ah, j'ai fait des recherches sur les ambiances colorées. Sur le vaudou, pas spécialement. L'important, c'est de donner l'impression que c'est réel, de plonger le lecteur dans la trame, en fait, dans l'histoire, et faire passer justement ces scènes fantastiques pour des scènes réelles. Mais ça, c'est travailler aussi les angles de vue, aussi bien les cadrages, aussi bien que les mises en couleur.
Est-ce que vous êtes allé sur place, j'allais dire, exprès pour Nécromancie, ou même avant, ou pas du tout?
Non, pas du tout. Par contre, j'ai trouvé pas mal de documentation sur la Nouvelle-Orléans de l'époque. Et puis, c'est vrai que le lieu, les marais, le côté un petit peu fétide, se prêtait vraiment à l'univers fantastique.
C'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, ce côté fantastique. Je veux dire, il n'aurait pas été dans la BD, vous n'auriez pas accepté le projet.
Non, mais il y a deux choses qui m'ont inspiré. C'était une bonne histoire déjà à illustrer. Et puis c'est ce mélange, c'est vrai, de gangsters traditionnels et de fantastique. C'est le yo-yo dans la bande dessinée entre les deux univers qui se complètent et en même temps qui se combattent. Donc ça, c'était intéressant à raconter.
Nouvelle-Orléans, tout le monde pense au blues. Est-ce que vous conserveriez une musique particulière pour lire la BD, pour rajouter, on va dire, à l'ambiance, à un groupe éventuellement?
Écoutez, on est dans les années 30, en 28, prohibition. Donc tous les disques de l'époque feront l'affaire, disques américains de préférence.
Et vous, est-ce que vous en écoutiez quand vous dessiniez?
Alors, ça dépend. Pas spécialement des disques des années 30, lorsque j'ai réalisé l'album.
Quelque chose que vous souhaiteriez nous dire sur cette bande dessinée?
Non, je crois que j'ai tout dit concernant Nécromancie, voilà.
Et vos projets actuels et futurs?
Alors mes projets, j'ai signé en tant que scénariste deux séries chez Glénat. Je pense qu'elles vont débuter soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine. Donc ça m'occupe pas mal. Et là je suis sur un projet personnel, donc il est trop tôt pour parler.
Chez Glénat, ce sera quelle thématique?
Le premier projet s'appelle Hollywood. Il va retracer l'histoire du cinéma, de la première invention de la caméra aux États-Unis depuis 1870, avec un méchant notoire qui s'appelait Edison, qui était un génie, mais aussi un génie du mal. La seconde s'intitulera... La première est dessinée par Marc Malès. La seconde s'intitulera certainement Catacombe. Sera dessinée par Michel Chevereau, avec qui j'ai déjà fait La loi du canoun. Elle commencera et débutera en... C'est une histoire qui commencera avec l'occupation de Paris tout début 1940 et qui se terminera en 1968. Et on passera par le biais des catacombes, parce que ce qui va se passer dans les sous-sols de Paris sera encore plus déstabilisant que ce qui se passe à la surface.
Et qu'est-ce que ça fait d'avoir deux facettes comme ça, le dessinateur, le scénariste? On peut avoir envie de faire un album complet avec les deux facettes? Est-ce que c'est plus agréable d'être avec toujours un binôme?
Oui, moi c'est un choix, parce que je trouve que c'est un métier qui est assez solitaire. C'est bien d'avoir un rapport avec soit un dessinateur, soit un scénariste, et puis on s'enrichit mutuellement. En plus, j'ai pas du tout la même démarche en tant que dessinateur que scénariste, parce que j'ai pas spécialement envie de raconter les histoires que je dessine, ou vice-versa, de dessiner les histoires que je raconte. En tout cas, lorsque déjà j'ai raconté une histoire, par le biais du scénario, je trouve ça, la plupart du temps, j'ai pas envie de la dessiner, parce que j'ai déjà raconté une fois. Donc, c'est bien de passer le projet, le bébé, à quelqu'un d'autre qui va un peu imposer sa vision, et j'aurai des surprises. Et là, elles sont en train d'être très bonnes, les surprises.
Merci beaucoup.
C'est moi.